This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, c'est Tony Nadal. Bienvenue dans l'échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, j'avais 12 ans et il accompagnait son neveu qui était à part déjà. Il avait remporté le tournoi doré. Et puis après, nous connaissons la suite. Tony était supposé m'accorder 30 minutes, ça a finalement duré une heure. Il a fait l'effort de partager son expérience et son expertise dans une langue qui n'est pas la sienne. Parfois, il faut tendre l'oreille, mais on comprend toujours. Federer, Djokovic, le tennis français, Roland Garros, le coaching, l'évolution de notre sport, nous avons parlé de tout. Laissez-vous porter par sa voix cassée. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Bonjour Tony Nadal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans Échange. Il y a une tradition dans l'émission, est-ce que je peux te dire tu ou je te vouvoie?
Toujours à tout le monde avec tu, avec tout le respect.
Commençons par le début. Comment toi, Tony, tu es venu au tennis?
J'étais une jeune qui aimait les sports. Quand j'étais petite, on jouait à foot, normalement, mais je jouais à ping-pong, je jouais à football. Pendant le mois que nous allons à la maison de l'été, j'ai fait beaucoup de natation aussi. Mais toujours c'est un sport amateur, non? Une chose qu'il faut les enfants de mon âge. Et je me souviens, parce que je crois en 1972, il faut le final de la Master Cup à Barcelone. Il jouait Ilie Anastase contre Stan Smith. Et j'aimais voir la plasticité de cette jeune. Non?
Ok.
Depuis septembre, j'essayais à jouer quelques fois, mais pas à jouer quelques fois, ça veut dire une fois chaque deux semaines. Non, mais jamais. Et je suis commencé après à jouer un peu plus quand j'avais 14 ans.
D'accord.
Et Anastase, il était toujours mon idole, non? Quand je le vois jouer. Et ça, c'est pour lui que j'aimais de voir le tennis.
Raphaël, ton neveu aussi jouait au foot quand il était petit. Pourquoi finalement il a choisi le tennis?
Bien, je crois parce qu'il a eu beaucoup de succès dans le tennis. Il aimait plus le football que le tennis, bien sûr, parce que je crois que pour un jeune, c'est mieux. Tu joues avec des compagnons, c'est un jeu d'équipe. Il a joué football et tennis jusqu'à qu'il avait 13 ans. Et dans ce moment, il a gagné le championnat de l'Espagne déjà plusieurs fois, je crois que trois fois. Il a gagné à Auré, il a gagné quand il avait 12 ans.
J'y étais à Auré en 98, j'ai joué le tournoi aussi.
Ah oui?
C'est la première fois que je vous ai vu là-bas.
Alors, il a gagné, je me souviens qu'il a battu à Marra, en finale. Ouais. À pas Andy.
Jamie.
Oui. Après, il a gagné beaucoup. Alors, au dernier moment, son père, il a dit, tu dois choisir un ou l'autre parce que sinon, l'école, il ne va pas trop bien.
Il y a quelque chose que j'ai lu ici ou là, comme quoi il était droitier et que ce serait toi qui lui aurais fait changer de main. C'est une bêtise.
Oui, ça c'est une chose. Je ne suis pas très intelligent, mais je ne suis pas idiot. Jamais je change les bras, que c'est naturel pour toi, non? Quand il jouait au foot, il était gaucher.
Ok.
Quand il jouait au tennis, quand il a commencé, quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, il joue toujours avec deux mains.
Ok.
Il avait 3 ans, nous ne faisons pas les services. 4 ans aussi, non, je crois que nous sommes commencés peut-être à faire les services quand il avait, je ne sais pas, peut-être 6 ans ou comme ça, non? Ça veut dire que dans ce moment, il jouait tout à deux mains et quand la balle vient au centre de la cour, il prend toujours ses coupes de ce côté, non? De
okay.
De la gauche. Pour ça, je pensais qu'il est gaucher. Et l'unique chose que j'ai fait, c'est changer le coupe de droite. Une chose technique et pour une chose de logique.
Okay.
Deux choses logiques. Le premier, j'ai dit combien de joueurs tu connais maintenant qui sont dans le top 10 avec le coupe de droite avec deux mains. Il n'y a pas rien. Alors, il ne sera pas le prochain. Alors, on doit changer. Et le deuxième, c'est pour le coup de revers. Quand tu fais le revers à deux mains, la raquette, il va égal en arrière que si tu fais avec une main.
D'accord.
Mais si tu fais avec deux mains le coup de droite, la raquette, il peut aller beaucoup moins en arrière. Alors, c'est un problème. Et je pensais au futur, ça peut devenir un problème. C'est vrai qu'il avait beaucoup de touches quand il était jeune. Il peut faire beaucoup de choses avec la balle.
Ouais.
Parce qu'avec deux mains, il est plus facile. Mais au dernier moment, nous sommes changés. Ça, c'est la vérité. Mais pas que je pensais.
Donc, il avait un coup droit de main, ça, on ne le savait pas. Est-ce que d'un point de vue caractère, d'un point de vue mental, est-ce que tu as senti quelque chose de différent chez lui, très jeune?
Oui, tout de suite. Il avait une chose très importante et très bonne. Il écoute beaucoup, il se laisse guider.
Ok.
Ça, c'est très important. Un des principaux problèmes pour tout le monde, c'est qu'ils ne sont pas, les jeunes d'aujourd'hui, plus que d'avance. Avant, ils avaient un peu plus de respect pour les personnes qui sont un peu plus grandes. Ils n'avons pas la capacité d'écouter.
D'accord.
Raphaël, il a ses capacités et quand même, il était... Je ne dis pas ça parce qu'il est mon neveu, mais c'est vrai, il était toujours un très bon enfant.
Okay.
Il peut dire, tu dois faire ça, il le fait. Si tu dis, oh, tu dois aller et frapper comme ça, alors j'essaie. Et ça, c'est les choses. Après, le mental... Il avait une bonne mentalité, mais je crois qu'il a travaillé très dur aussi pour avoir cette mentalité. Toutes les choses qui peuvent faire progresser, non? Toutes les choses qui peuvent apprendre le coupe de droit, le coupe de revers, le service, et qui peuvent progresser aussi avec la tête. Le problème, c'est que la tête, c'est le plus difficile de changer parce que presque tout le monde, il est très content avec sa tête. Alors, Pas beaucoup de personnes, ils voient qu'ils font les choses mal. Alors, c'est difficile de changer la tête si tu ne sais pas que tu as ce problème. Quand tu fais le coup de droite, tu vois tout de suite que la balle va de haut. Alors, tu dis, je dois changer le coup de droite.
Ouais.
Parce que mon balle va de haut. Ou mon balle ne va pas trop vite. Alors, c'est normal. Je dois changer. Mais quand j'ai ma tête, oh, je fais un désastre, mais je pense qu'ils sont les autres. Non? Parce que tu ne vois exactement tout de suite tout ce que tu fais mal. Mais quand même, je pense que ce que j'ai dit avant, tu peux travailler toujours la tête. Qu'est-ce que c'est travailler la tête? Il est très simple. C'est pas parler quand tu fais une faute. C'est pas être frustré quand tu... Quand la balle va dehors, mais frustré. Quand Raphaël il est jeune, je disais toujours, quand il arrive au tennis, la première chose, bon visage. Alors, avec un bon visage, c'est plus facile d'apprendre toutes les choses. Et ça, c'est une chose qu'on doit faire beaucoup. Aujourd'hui, ouais. C'est difficile, mais beaucoup de fois, pourquoi le joueur tennis, le français, Ils ont une très jolie technique, presque tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont donné une très grande importance à ça.
Oui, c'est vrai.
Tu sais? Et pourquoi ils ne sont pas trop forts, beaucoup, avec la tête? Peut-être parce qu'ils ont les choses pas pour être la tête très forte.
Tu trouves que les joueurs de tennis français, ils, par exemple, ils n'arrivent pas avec le bon visage sur le terrain?
Non, je trouve que, bien, c'est pas bon. Aujourd'hui, on doit aller. Je ne peux dire ce que je veux parce que s'il dit quelque chose qu'il ne va bien, tout de suite, il vient un titulaire. Non, non, mais je ne veux dire. Mais je crois que les joueurs français, ils donnent plus d'importance à l'esthétique et à frapper bien la balle. Pour moi, ça, c'est très important aussi.
D'accord.
J'aime le tennis. Que quand il voit des coups bien faits, quand je vois les personnes qui frappent bien la balle. Mais quand même, pour gagner dans les sports, c'est une chose d'attitude.
Ouais.
Presque toujours. Et plus avec un sport où le plus important, c'est la répétition. C'est faire beaucoup de fois la même chose. Alors, tu dois avoir cette capacité pour faire ça. Et je vais prendre ça normalement, pas tout le monde. Et on dit qu'ils ne sont pas très consistants.
D'accord. Comment tu as géré ton exigence envers ton élève Raphaël et de faire abstraction de ton neveu?
Bien, je crois que j'ai fait plus exigeant parce qu'il était mon neveu. Parce qu'au dernier moment, j'ai beaucoup d'intérêt qu'il devienne un très bon joueur. Depuis que j'ai commencé à entraîner, depuis que je reviens de Barcelone, j'ai étudié et j'ai joué au tennis là. Quand je reviens, quand j'ai commencé à entraîner à le club tennis Manacor, toute ma vie, j'ai une idée, j'ai une illusion. C'est que quelqu'un qui joue avec moi, il devient un professionnel, qu'il devient un très grand joueur. Ça, j'ai travaillé toujours pour ça.
D'accord.
Et pour moi, pas seulement avant de Raphaël, j'étais à mon petit club, j'étais beaucoup de joueuses qui jouent très bien. J'ai une autre qui était le numéro 2 de l'Espagne, une femme qui était le numéro 4, une autre qui était le numéro 7. Je ne travaillais pas beaucoup de ans, mais toujours j'avais beaucoup de... Je crois que très bonnes joueurs, mais pas... Je ne peux choisir de tout le monde, seulement les membres de le club, non? Mais j'ai travaillé très simple. Je savais que quand tu travailles plus, tu as plus d'opportunité de devenir un très bon joueur. Alors, j'avais cette passion. Et je me souviens, je dois finir à une heure, par exemple, le practice, et je finis à 2 heures.
Ouais.
Pour moi, c'est le même s'il était le samedi, le dimanche, parce que j'aimais ça. C'est mon exigeant. J'étais très exigeante avec Raphaël, mais aussi la vie que jamais. Qu'il m'a dit pour aller à jouer, jamais j'ai dit non, aujourd'hui je n'ai pas. Égal s'il était le jour de Noël, ou il était toujours. S'il pleut aujourd'hui, tranquille, on joue de même. Si il pleut le lundi, ou le mardi, je ne sais pas, on ne peut jouer, alors. Ça, c'est le jour de fête, le dimanche, on doit travailler. Okay. Et j'étais très exigeant, mais il avait aussi Raphaël qui était exigeant avec moi-même.
S'il y avait cette exigence à apporter de magnifiques fruits, bon, Raphaël en est à 19 titres du Grand Chelem, mais quand vous avez travaillé ensemble, vous en avez remporté 16, 30 Masters 1000, 2 médailles olympiques. Est-ce qu'il y a un moment qui peut ressortir plus fort que les autres dans ta collaboration avec Raphaël?
Bien, non, beaucoup de fois, ils me sont demandé, quand je disais que je finis avec Raphaël, beaucoup de fois, ils me sont demandé quel est le moment plus spécial, non? Et j'ai dit, j'ai beaucoup de la chance parce que j'avais beaucoup de moments spéciaux avec mon époque. Le premier moment spécial, vraiment spécial, était quand Raphaël a gagné Monte Carlo, le premier. Le moment spécial, le premier Roland Garros, bien sûr, parce que c'est un rêve de toujours, gagner là, et le premier Wimbledon.
Ouais.
C'est ça le toit que je donne de plus spécial, mais il n'y a pas aucun qui, pour moi, c'est plus spécial que quand j'étais dans le cours à Manacor, quand Raphaël il était jeune. Et je sais qu'il apprend le coup de droite ou le coup de revers. Et quand je suis là, un jour et un autre, et ça pour moi était le spécial. Et il y a un autre moment qui était spécial, c'est quand Raphaël a gagné Tarbes.
Ok.
Pour moi, quand il a gagné Tarbes, oh, je pensais que nous avons fait quelque chose de très extraordinaire et qu'il peut devenir un très grand joueur.
Contre Julien Gély.
Oui, je me souviens. Contre lui, nous avons joué. Je crois que bien, il n'était pas un match trop dur, mais ça va.
Bon, Raphaël a deux grands rivaux dans sa carrière qui peuvent ressortir en la personne de Roger Federer et Novak Djokovic. Et j'ai envie de te poser la question en tant qu'entraîneur. Comment on prépare un match contre Federer sans donner de choses tactiques, mais quel était le ressenti avant des matchs contre Federer et contre Djokovic? Est-ce qu'il y a une différence?
Oui, ça dépend toujours de le moment que je vois. Je suis une personne que j'ai parlé toujours beaucoup et j'ai regardé toujours les yeux de Raphaël et je vois s'il était plus nerveux de le normal, s'il a besoin de ça ou il a besoin d'une autre chose. Ça dépend. La première finale de Monte Carlo que nous jouons contre lui.
Ouais.
Il m'a demandé, avant de sortir, il manquait une heure et demie pour sortir. Et il m'a dit, Tony, qu'est-ce que tu penses de le match d'aujourd'hui? Et je disais, oh, je crois que doit être difficile. Federer, il y a le coup de droite meilleur que le de toi. Son coup de revers, c'est mieux que ton revers. La volée, c'est beaucoup mieux que de toi. Et quand je veux dire le service, il n'y a pas colère. Le service, c'est beaucoup mieux. Et Raphaël il m'a dit, arrête. Il me donne un très bon moral pour aller à jouer. J'ai dit, si tu veux, je te peux dire une chose qui n'est pas vraie.
Un mensonge.
Oui, je te peux dire, mais dans une heure et demie, Federer, il ne te va dire ça. Alors, on doit savoir ça. Et maintenant, nous devons commencer à penser qu'est-ce que nous devons faire, non? Et j'ai dit après, bien. Des choses faciles, non? Parce que je dis, tu dois jouer chaque point comme s'il était le match point, chaque point comme s'il était ta vie dans le jeu. Presque tous les balles sont coupes de revers. Ça, c'est ce que j'ai dit. Mais au dernier moment, ça dépend. Il y a un moment que tu dois dire une chose ou une autre. Contre Djokovic, je me souviens, en 2013, nous sommes à la finale de US Open. Il y a un moment, Raphaël il avait gagné le premier set, après il a perdu le deuxième. Djokovic il a commencé à jouer très bien. Il avait break à le troisième. Et il était vraiment difficile pour Raphaël. Et dans ce moment, il vient, j'étais à la boxe, non? Il vient et il m'a dit, Tony, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, je crois que tu dois frapper toutes les balles très fort au centre de le cou. Pas ouais. Frapper trop près, pas bouger trop à Djokovic, parce que sinon, il, quand il ouvre, il peut ouvrir plus et il a le parallèle aussi. Non? Je dis non, avec hauteur, beaucoup de balles très fort au centre. Oh, bien. Mais quand il a parti, j'ai dit à Carlos Costa, qui était près de moi, j'ai dit, ce que nous devons faire, c'est aller à l'église.
À l'église.
À prier que ça y change. Mais ça dépend. Pour moi, c'est toujours un peu plus difficile avant. Maintenant, déjà non. Djokovic que Federer, parce que Federer, nous avons un chemin contre lui. Il sait, quand Raphaël frappe la balle, Ford, Simpson, coupe de revers, un peu d'auture,
ouais.
Et après changer. Pour moi, c'est un chemin qui, si je sais qu'il le peut faire, nous avons beaucoup de possibilités de gagner. Maintenant, il a changé en 2017, il a commencé à frapper différent, alors c'est un peu plus compliqué. Et avec Novak, c'est toujours, tu ne sais pas exactement ce que tu peux faire. Il doit jouer et essayer d'être très bien.
Contre Novak Djokovic, le chemin, il est moins clair.
Oui, il est moins clair parce qu'il défend bien, il attaque bien. Si tu essaies d'ouvrir le court, il a tous les coups, le parallèle et le plus croisé. Alors, il y a ces problèmes. Mais au dernier moment, la vérité, c'est que pour jouer contre le meilleur joueur du monde, ce que tu dois faire est toujours jouer très bien. Si tu veux battre à Raphaël, si tu veux battre à Djokovic ou à Federer, tu dois jouer très bien. Égal si tu veux battre à Mara ou à ton frère. Tu dois jouer bien. Si tu ne joues bien, tu perds. Et beaucoup, je n'aime pas beaucoup de faire beaucoup de lecture, beaucoup de choses.
Ouais.
Au dernier moment, nous avons notre jeu.
Ouais.
Alors, ce qu'il doit faire, doit être faire une préparation un peu plus mieux pendant toute la formation pour avoir les possibilités de gagner.
Est-ce que le but ultime de Raphaël, c'est de finir devant en nombre de titres du Grand Chelem?
Non, je ne sais pas. Bien sûr qu'il sait qu'il est très proche de Federer, qu'il est proche de Djokovic aussi. Mm-hmm. Je crois que les trois, il peut être le personne avec plus de titres de Grand Slam. Peut-être Federer, peut-être Djokovic, peut-être Raphaël. Au dernier moment, je crois qu'ils sont très proches, tous. Son niveau de jeu, il est très haut. On verra après.
On est à quelques jours du début de Roland-Garros. C'est là où Raphaël a écrit sa légende. Et en fait, on se dit, d'accord, ils sont en train de se battre pour le record du nombre de titres de Grand Chelem, mais on se dit qu'à Roland-Garros, il en a gagné 12 séries en cours. Comment a-t-il maîtrisé autant ce Grand Chelem et cette surface qu'est la terre battue?
Je me souviens de le temps de Björn Borg, quand il a gagné 6 fois. Et je pensais, 6 fois gagner là, c'est vraiment difficile de perdre. Et après, mon niveau, il a gagné 2 fois. 6. C'est pour moi une chose vraiment incroyable. Bien, je crois que dans le terre battue de Paris, il va tout bien pour Raphaël. Nous sommes entraînés toujours dans le terre battue, la première chose. Le deuxième, c'est que pour le caractère de lui, pour comme nous sommes entraînés, ce cours il est spécial, non? Parce que ce que nous sommes fait quand Raphaël il était petit, que je pensais à ça, avec le coup de lifté, avec la grande intensité de jambes, je crois que tout ça il va bien pour le central de Roland Garros. Et après, il est suffit gros, il est très gros. Alors, pour Raphaël, c'est mieux aussi. Quand le central il était plus petit, c'est un peu plus difficile parce que le jeu il va tout un peu plus vite, non? Je crois que c'est une combinaison spéciale de Raphaël et le cours de Roland Garros. Toujours, pour nous, était vraiment spécial de gagner là. Égal la première fois que le deuxième.
Tu as commencé à travailler avec lui très jeune. Vous avez évolué ensemble pendant 20 ans. Tu l'as vu grandir, tu l'as vu devenir homme, riche, puissant. Comment votre relation a évolué?
Bien, l'évolution normale de primaire. Quand il était jeune, j'étais son oncle. J'étais l'entraîneur et l'oncle, mais quand je m'en vais à un tournoi avec lui, j'étais l'oncle. Je disais ce qu'il doit faire, mais à moitié qu'il grandit, non?
Ouais.
Quand il a grandi, alors les décisions, il les prend lui que moi. Parce que ça, c'est normal. Je, je n'aime pas de prendre la décision pour une personne qui est adulte, non? Mmh. Quand il était jeune aussi, bien sûr que je disais tu dois faire ça ou ça parce que ça c'est le normal avec une relation avec une personne qui est mature comme moi et une personne qui est très jeune comme lui. Mais j'étais très exigeant, mais toujours j'ai essayé que cette exigence, il devienne une auto-exigence.
D'accord.
Ça a été avec tout. Égal avec quand il va être dans le cours ou dehors de le cours.
D'accord.
Il y a un moment que j'étais l'entraîneur et j'ai fait l'entraîneur par rien d'oncle parce que c'est normal, il est adulte, non? Mais également maintenant, quand je suis à l'Académie de Raphaël, toujours j'entraîne pas avec une imposition, j'essaie toujours de faire une conviction de le joueur, non? Mm-hmm. Et jamais je dis, oh, tu dois faire ça ou ça.
Mm.
Pas jamais, presque jamais. Je veux que l'enfant, il prend sa motivation pour décider aussi ce qu'on doit faire. Bien sûr que je donne mes idées. Je dis, je crois que tu as besoin d'être plus fort ici ou là, tu dois bouger plus les jambes, ou tu dois aller un peu plus au filet, ou tu dois faire moins fort, je ne sais pas. Mais je veux que c'est lui. C'est que il décide les choses parce que je sais qu'avec ça, il a beaucoup plus de motivation. Je parlais de moi-même comme un professeur.
Pour préparer l'émission, j'ai vu que tu avais dit quelque part que tu étais responsable de ce que tu enseignes, mais que tu n'es pas responsable de ce que l'élève apprend. Oui.
je dis ça à un parent, une fois. Une personne qui était très importante dans ce
ouais.
Il était le plus important, il est le numéro un de banque, le plus
okay.
important. Il a un très grand succès. Et j'entraînais à son fils. Et il m'a dit un jour, quand il a vu que son fils ne joue pas bien, il m'a dit, ah, ça c'est ce que tu montres à mon fils. Et j'ai dit, non, bien sûr que non. Il y a une petite confusion, ça c'est ce qu'il apprend. Et c'est toujours un peu différent.
Tu es donc maintenant directeur de l'Académie Raphaël Nadal. D'ailleurs, j'ai une petite question. Pourquoi vous avez arrêté de travailler ensemble en 2017 avec Raphaël?
Parce que je pensais que mon travail déjà n'est pas important. Il y avait Carlos Moya, il y avait Francis Roche. Je pensais que trois, on n'a besoin pas alors. J'ai décidé de marcher. J'ai vu que Raphaël, il était bien. Et pourquoi je dois être là? Toujours, je pensais, j'aime quand mon travail, il est important. Mm. Je pense que je peux pas être, alors c'est mieux que je ne suis pas là.
Tu pensais que Raphaël n'avait plus besoin de toi, maintenant qu'il avait aussi Carlos
Oui, je pensais que ça suffit.
Ok, d'accord.
Plusieurs, on ne veut pas. Donc, je n'aime pas jamais la complication à aucune place. Je fais tout très simple, égal quand je entraîne à quelqu'un.
Est-ce que tu pourrais coacher un autre joueur?
Oui, pour moi, la chose la plus importante est ça, et je le dis, mais le plus important, c'est la formation. Si tu as une bonne base, tu peux mettre beaucoup de choses après.
Et il y a un espoir à l'Académie où tu vois un potentiel et un beau futur?
Il y a une qui va gagner.
Comment elle s'appelle?
Je ne te dis pas parce que j'ai trop de pression.
Ah, ok, d'accord. Elle a quel âge?
À 15.
Ah ouais. Ah ouais, d'accord.
Je joue bien et j'espère qu'il va gagner. On doit vivre toujours avec cette illusion.
Bien sûr.
Pourquoi je travaille? Ton frère, il a pensé qu'il va gagner Roland Garros?
Je pense que jeune, il le pensait, mais à mon avis, quand il est arrivé dans sa carrière et qu'il est arrivé avec vous.
Ben, on doit voir. Sinon, tu ne peux travailler jamais très bien. Toujours, je m'en vais à faire des speeches à beaucoup d'entreprises dans l'Espagne, beaucoup de fois. Et je parle toujours de la confiance. C'est impossible de travailler bien sans confiance. Alors, je veux avoir cette confiance toujours. Je veux avoir, ok, je l'ai.
Le problème, par exemple, avec Raphaël qui gagne 12 fois Roland-Garros, c'est que les 127 autres joueurs, ils ont beau rêver à gagner Roland-Garros, c'est compliqué.
C'est très difficile pour les autres de gagner, mais toujours, toujours il y a possibilité. Je pensais quand Raphaël était jeune, ou quand j'ai entraîné les autres, je disais toujours, oh, tu peux gagner un point. Si tu peux gagner un, tu peux gagner deux. Si tu peux gagner deux, tu peux gagner trois. Si tu gagnes trois, tu peux gagner quatre. Alors, c'est un peu plus chaque jour. Et quand tu mets la tête à le travail que tu fais, après, normalement, tu vas bien.
J'ai deux dernières questions.
Okay.
En regardant en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment?
Beaucoup de choses, bien sûr. Seulement les idiotes, ils disent qu'on fera la même chose après qu'ils sont faits, non? Ça veut dire ou bien que tu as fait parfait si tu ne veux changer, ou le deuxième, plus normal, que tu es idiot. Non, je ne fais jamais parfait, mais je ne suis pas idiot. Bien sûr que si je fais autrefois, je ferai des choses bien différentes. Mais les principes, ils sont semblables. Ce que je fais avec les enfants que j'ai à l'académie ou avec cette fille, c'est très similaire. Bien sûr que un peu moins dur qu'avec mon neveu, mais je crois qu'au dernier moment, il était très bien pour mon neveu. Il a gagné beaucoup avec cette exigence. Et bien, techniquement, on fait un peu plus de service.
Ok.
Mais tu sais une chose, c'est une chose qui va dans ma mentalité. Je n'aime pas le service. Je ne comprends pas comment c'est un jeu avec un penalty. Et comme que je n'aime pas de travailler pas trop. Je sais qu'on doit travailler beaucoup plus. Mais pour moi, c'est incroyable que les dirigeants, ils ne font rien. Ça.
Qu'est-ce que tu ferais pour enlever de l'importance au service?
Non, je ferais beaucoup de choses pour changer le jeu de tennis. Le problème de la personne qui sont devant le jeu, l'ITF ou l'ATP, l'ITF, il a un problème. Bien, il ne veut toucher rien. Normalement, pour toucher, tu dois vouloir penser un peu. Et tu dois essayer de chercher quelque chose, non? Qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas en France si on joue plus ou moins qu'avant le tennis. Mais dans l'Espagne, on joue beaucoup moins qu'avant.
Pareil en France.
Parce que le tennis, c'est trop difficile. Aujourd'hui, la société, il a changé. Quand j'ai commencé à jouer au tennis, quand j'étais jeune, quand j'étais un jeune de 14, 15 ans, nous avons le club avec 5 cours de tennis et un mur, un fronton, non? Et beaucoup de personnes, personnes un peu de 30 ans, ils sont allés à le fronton avec un livre de tennis, d'explication pour faire leur revers. Et pendant 2 ou 3 mois, ils sont allés à le fronton pour essayer d'apprendre le coup de revers, non? Ou le coup de droite, ou les matchs, ou quelque chose. Aujourd'hui, ça c'est impossible. Aujourd'hui, les personnes qui font sport, ils veulent aller aujourd'hui, et demain, ils veulent faire un match. Ils veulent être heureux de jouer, non? Alors, ça veut dire qu'il y a un changement. Nous ne pouvons pas perdre trop de temps. On apprend le coup. Pourquoi on fait de l'esport de tennis? Pourquoi? On fait pour une question sociale, tous les sports, socialité. Le deuxième, pour faire activité physique. Mmh. Et le troisième, pour être un peu amusant.
Oui.
Qui est heureux de faire ça, non? Le social, c'est bien. Physique, non, parce que dans le tennis, tu perds la balle tout de suite. Tu fais un coup, dehors, tout le temps. Je parle des amateurs. Et après, amusant aussi, non, parce que tu ne peux mettre 6 balles. Non, tu fais un balle et...
Tu vas la chercher, voilà.
Alors, je disais, pourquoi il passe ça? Parce que la balle, il va trop vite. La balle, aujourd'hui, il va très, très vite. Et avec les raquettes, avant, je me souviens, quand j'ai joué avec les raquettes de bois, tu dois frapper très bien la balle pour mettre la balle un peu loin, non? De la piste, non? Alors, aujourd'hui, tu dois faire quelque chose pour que la personne il peut jouer plus facilement au tennis, les amateurs. Et en même temps, avec le coup de, avec les raquettes d'aujourd'hui, c'est trop facile pour le professionnel.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu sais, quand, l'autre jour, j'ai vu le match Berrettini-Ruud à Paron. Le match était à le US Open. Je ne peux voir si la balle va dedans ou dehors. Ça, c'est très mal. Hier, je voyais, parce que j'étais malade, j'étais à la maison, et je voyais le match de la finale de le US Open.
Ouais.
De Arthur Ashe contre Nastas.
Ouais.
Et tu vois la plasticité de Nastas, d'Ashe aussi, mais Nastas, il est très esthétique, une plasticité très jolie. Aujourd'hui, quand tu vas, les personnes on doit jouer trop fort et le mouvement était terrible. Seulement Federer, non. Federer, il a encore cette plasticité, mais les sections. Les autres, tu vois jouer beaucoup que je n'aime pas du tout de voir. Alors, on doit faire quelque chose. Et quand tu vois que le tennis, il perd adeptes, qu'il y a dans l'Espagne, beaucoup de personnes prises à padel qu'à tennis, tu dois demander pourquoi et tu dois essayer de faire quelque chose. Et ma proposition, c'est simple, faire la raquette plus petite.
OK.
La raquette, pas trop longue.
Ouais, ouais.
Plus petite. Alors, non, non pas ça, seulement c'est que le
grip, le manche.
Le manche doit être moins petit. Si tu as le manche moins petit, tu ne peux frapper trop fort la balle. Tu ne peux faire le service à 230 comme aujourd'hui. Et pour les amateurs, ça va devenir plus facile parce que pour les amateurs, plus facile et pour les professionnels, un peu plus difficile de faire le point. Après, quand tu regardes un match, si tu vas à l'iPad et tu regardes les 25 meilleurs points de l'année,
ouais.
De l'année, il n'y a pas d'un ace.
Tu as raison.
Normalement, ils sont de jeux qui avaient beaucoup de balles. Non? Alors, l'autre jour que j'ai regardé à Nastase contre Ashe, il ne frappe pas beaucoup de balles. Il était dans l'herbe, à la Forest Hills d'avance. Non?
Okay.
Il n'y a pas beaucoup de changements, mais tu vois la plasticité de les mouvements parce qu'il ne va pas trop vite. Mais tu peux penser, tu commences le point avec un penalty. Quand même, on doit savoir. Quand ils ont décidé la dimension de la cour et le filet, les personnes, ils font 1,70 m.
Oui, tu as raison.
Les joueurs, ils font presque 2 mètres. Mm-hmm. Après, le bras, il est 5 ou 6 cm plus long.
Mm.
Et le dernier, la raquette, il faut une vélocité incroyable. Et avec ça, cet sport, c'est l'unique qui ne fait rien pour changer. Rien de rien. Maintenant, il veut changer à 4 jours. C'est terrible pour moi. Tu dois changer le spectacle, tu dois faire un bon spectacle. Sinon, tu vas à le match, et je suis allé beaucoup de ans dans le cours, et j'ai vu beaucoup de fois les matchs, et les personnes, il est avec le mobile sans regarder rien, parce qu'il était vraiment pas bon spectacle.
Quelle est l'émotion ou le sentiment qui résumerait votre fabuleuse histoire avec ton neveu?
L'illusion que j'avais avec, et ça c'est la motivation de ma vie, tu sais, l'illusion, pour moi, le résultat, c'est pas le plus important, bien sûr que j'étais très contente quand j'ai vu gagner à Raphaël, à Roland Garros, quand je suis allé là, et je suis à la cour pour entraîner, ça c'est incroyable pour moi que j'ai commencé ma vie de tennis en un petit club. Arriver là était incroyable, mais c'est l'illusion. C'est l'illusion, la motivation de tout. Alors, ce que je pense toujours, quand je m'en vais en arrière, c'est oh, quelle chance j'ai eu que je pouvais faire toujours ce que j'aime. Je l'ai fait avec un familial, c'est beaucoup mieux. Et après, j'avais la possibilité d'être à très belle place où j'ai vu le meilleur joueur du monde, où j'ai vu jouer à Björn Borg, à Lendl, ou à McEnroe, où j'ai vu jouer à mon neveu, où j'ai vu que son coach s'asseyait, mais je me suis asseyé. Alors, je suis une personne que je crois en bonne gratitude à la vie.
Eh bien, merci beaucoup, Tony Nadal. C'était un plaisir.
OK.
Muchas gracias, Tony.
Au revoir.
On se demande toujours ce qui fait une légende du jeu, non? Quand on sort de cet échange, on a quelques éléments de réponse. C'était un privilège d'échanger avec lui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter, à vous abonner à la page Instagram de l'émission. Son succès en dépend. Merci beaucoup pour votre soutien. Profitez bien de Roland Garros et à très bientôt pour un nouvel épisode d'échange. Et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.